cette sortie de la fête de Hanouka, on va essayer de prendre avec nous un enseignement qui recoupe un petit peu les parachutes qu'on a vu dans Bereshit et la fête de Hanouka de laquelle on vient de sortir, de ces fêtes les plus lumineuses de toute l'année. C'est un sroud pour moi d'être là, au prochain avec les tzadikot de première division de Ligue des Champions, de Ligue des Nations ici à Marseille. Baruch Hashem, dans cette école où les murs ils transpirent la Kdoucha, ils respirent la sainteté et la lumière. Et bien, Baruch Hashem, j'espère que ces paroles vont nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Elles apporteront la réfouachéma à tous les cholam ou Israël. Et le nishmat pour tous les tzadikim et qu'on puisse mériter. Mais quand on marche, l'aime de ma chère, c'est de Kenyon, mais mes rabbins, nous amènent. Chio s'appelle la lumière et l'obscurité. Être entier avec Hashem. Yaakov Avinu, quand il a connu Rachel pour la première fois, il l'a rencontré. C'est là qu'il a composé le Tehilim, Shir la Ma'alot, Saina il a Rim, Me'ain Yavo Ezri Ezri Mim Hashem. Il était désespéré, il a perdu un peu, nous disent Chazal dans le Midrash Rabbah, de son Bitachon et de sa Emouna Shelema qu'il avait, alors qu'il vient de sortir de 12 années, de 14 années de Yeshivat Shem Ve'ever, où il a fait Messirut Nefesh. Il est dans une situation dans laquelle il ne sait pas comment il va faire pour se marier, du fait que Eliphaz l'a plumé. Il a pris tous ses biens sous l'ordre de Esav, qui avait demandé à exécuter son oncle. Il lui dit, voilà, tu vas partir exécuter Yaakov Avinu. Et lui s'est retrouvé dans une situation dans laquelle il était pris entre le marteau et l'enclume. D'un côté, il a grandi sur les genoux de Yitzhak Avinu. Eliphaz, il a été éduqué par Yitzhak. D'un autre côté, son père, c'est Esav. Esav demande donc d'exécuter Yaakov Avinu. Et il se trouve dans une situation dans laquelle il ne sait pas quoi faire. Si jamais je fais ça, je vais manquer de kavod pour mon maître. Et si jamais je ne fais pas cette chose-là, alors je vais manquer de kavod à mon père. Alors Yaakov Avinu, à ce moment-là, il va donner une gemara. Nous dit la Gemara dans ma Sechet Sanhedrin, Daf Mem Dalet. Dit la Gemara, Anin Yershav Kemet, le pauvre il est considéré comme mort. Prends-moi tous mes biens, et à ce moment-là, tu auras accompli la volonté de ton Zrob de père. Donc c'est comme ça que les choses se sont plus ou moins passées. Donc Yaakov Avinu se trouve sans rien. Et à ce moment-là, il s'est mis à se souvenir. Il a dit, mon père Yitzhak, quand Eliezer, le serviteur d'Abraham, il est parti pour lui trouver une kala, il avait shtar dans sa main. Tous les biens d'Abraham Avinu, il allait transférer de façon unilatérale sur son patrimoine. Donc il allait refaire Wall Street, là-bas, ça allait être un patron. Il a dit, mais moi, je n'ai même pas d'argent même pour acheter là-bas des bracelets ou des nezamim, là-bas, rien du tout pour acheter un anneau ou des bracelets, rien. Et ça, il est arrivé, mais aïn yavo ezri, je vais lever mes yeux vers la montagne là-bas. Et je vais dire, mais aïn yavo ezri, d'où va venir l'aide? Qui va m'aider? Comment je vais pour me marier? Alors là, c'est la question parfois que quelqu'un il se pose avant qu'il va se marier. Il dit, moi, mon père, il n'est pas rangé à Wall Street, c'est pas un patron, c'est pas un parrain de la mafia, il n'a pas des milliards à la Banque Centrale Européenne ou au Fonds International. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais épouser un Ben Torah, un Avrech, quelqu'un qui va étudier la Torah et qui va gagner 500$ par mois. C'est-à-dire, Abota Ezri, Meim Hashem, Ose Shama, Ibaret, il s'est ressaisi, il a dit, Akadosh, Baruch Hu Elohim, Baruch HaGever Hashem, Iftar Bashem, et Hashem Iftacho, celui qui a confiance en Dieu, Akadosh, Baruch Hu Rabota, il n'abandonne personne. C'est-à-dire, j'ai pas un père riche, Yeshli Abba Ashir. Akadosh, Baruch Hu, mon père Rabota, il est très très riche, c'est Melech Malcham Lachim, il a le monde entier entre ses mains. Ce qu'on lui demande avec tout notre cœur, Karov Hashem, Lechol Korov, Lechol Hashem, Ikrao, Vehemet. Il répond à Bota, tu demandes à Kadosh pourquoi avec tout ton cœur, était conscient qu'il a toutes les forces entre ses mains, il te sort de tous les précipices et toutes les situations difficiles. Ercheloye, la question que demande Abraham Shmulevi Zatzal, le Rosh Yeshivat Mir, après la guerre de Seconde Guerre mondiale, c'est le Rosh Yeshiva. Abraham Shmulevi Zatzal, il demande comment c'est possible que d'un côté il dit que Eliphaz c'est le Talmid de Yitzhak Avinu et d'un côté c'est le fils de Esav. Comment peut-il avoir de façon simultanée une telle lumière et une telle obscurité? Et la Vadaï qui dit que la lumière et l'obscurité c'est deux choses qui peuvent servir de façon simultanée à l'intérieur d'un même être. Et à l'inverse de ce que nous on pourrait penser, qu'un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité, ça peut être vrai, mais aussi un peu d'obscurité repousse aussi beaucoup de lumière. Si quelqu'un ne fait pas un travail sur lui-même, non, pensez jusqu'à présent que quand tu fais en sorte d'allumer de la lumière, tu fais rentrer de la lumière de la Torah, hein, de facto, l'obscurité qui habite à l'intérieur de la personne, elle va sortir, mais il n'en est pas ainsi. Si quelqu'un ne fait pas un travail pour extirper l'obscurité qui est à l'intérieur de lui, cette obscurité, elle peut avoir raison de lui et le mettre à plat totalement. Et ça, c'est un chidouche tout à fait révolutionnaire que j'ai, Bessiat Adishma, découvert ces derniers jours, ces dernières semaines, et que je voulais faire partager un petit peu au judaïsme français qui se dit ouvert, qui se dit pluraliste, qui se dit un petit peu différent de celui qu'on vit chez nous, des Bnei Braki, des Bnei Brakers, des Rosh Bakir, des Khaniok, des fondamentalistes, des ultra-orthodoxes, là-bas, comme ils appellent, avec toutes sortes de noms qu'ils affublent, des sobriquets et tout ça. Il a dit, c'est pas grave. Il a dit, ça, c'est une chose. Bon, Khachem, ici, c'est une sniff de Bnei Bronx, ici, le collège et tout ça. Donc, vous êtes à Bnei Bronx avec nous, il n'y a pas de problème, je parle pas gros. Mais je parle des gars là-bas qui sont mi-figues, mi-raisins, mi-carpes, mi-lapins là-bas. Les types qui mettent les bracelets rouges de Baba Salé, la pierre bleue des lattes, qui font les yeux quand ils vont laisser faire un Torah, qui se roulent sur la prairie et tout ça, et qui se roulent sur la tente du Baba Salé, et l'après-midi, ils vont à Freshman et Freshman en train de bronzer comme des cuitièmes soins ou des shawarma sur les plages. Tu vois, le gars, le matin, il va à la synagogue, et l'après-midi, il va comme un shawarma avec Tarzan et Cheetah là-bas, et tous les animaux de la prairie là-bas, et Jane aussi, ils vont là-bas dans les plages mixtes. Il dit, oh, écoutez, ce qui compte, c'est de faire un peu, on est des traditionalistes, nous, on essaie de garder les choses. Avonai Rabchaim Shmulevitch, il apporte à Yesod qui fait tomber ta chaise. Il te dit qu'il vaut mieux ne rien faire du tout que de faire à moitié. Vous savez ça? C'est un peu différent de tous les discours qu'on a l'habitude d'entendre là-bas dans les endroits. Oui, ce qui compte c'est d'essayer de faire et ouais, il faut faire aussi un peu et tout ça. Il dit Habibi, c'est plus dangereux de ne pas faire, de faire quelque chose à moitié que de ne pas faire du tout et je vais vous apporter des preuves à ça. Il est marqué dans le Passouk. Yesharim d'Arke Hashem, ils sont droits les voies de Dieu. Les tzadikim yelchubam poshim ikashlubam. Les tzadikim, ils iront dans les voies d'Hashem, ils s'affermiront. Et les rechaim, ils trébucheront. La Gemara dans Maseret, au Rayot, à la page Yud, apporte Rashi sur place un commentaire. On aurait pu penser qu'il y a un chemin sur lequel on peut marcher et se affermir, et un chemin sur lequel on peut marcher où on va tomber. Il te dit, c'est le même chemin. Ce même chemin qui est Yachar, les tzadikim ils vont avec, ils se renforcent, et les rechaim ils trébuchent et ils tombent dessus. C'est quoi ce chemin? C'est le chemin de la Torah. Le limoud à Torah et le koar à Torah, nous dit la Gemara dans Maseret Shabbat à la page Pechet, que celui qui fait la Torah avec sa main droite, la maïbilim bas sa madecha, c'est un élixir de vie. Celui qui fait la Torah avec la main gauche, c'est un élixir de mort, sa mademota. La basmilin ba samademota. Tu dis, attends, j'ai pas compris. La Torah, ça peut être un élixir de mort. C'est bizarre quand même, non? Tu dis, on aurait pu penser. Donc, nous dit Rashi, ça veut dire quoi celui qui fait la Torah avec la main droite? Je vous dis Rashi, Rabbona, Yanni, Metzatzet. Je vais être Metzatzet d'Arashi. Là-bas, je vous le dis. Mila ben Mila, que vous ne croyez pas que je suis en train de vous faire des interprétations. Ce que Rashi dit. Asukim, batora be kol kocham. Ils s'investissent dans la Torah avec toute leur force. Qui Adam osé beyamin chez Iikar. Comme quelqu'un qui fait les choses avec sa main droite, que c'est sa main qui est puissante et qui est forte. Qui est sa main qui est essentielle. Donc, Mina en déduit, c'est quoi celui qui fait la Torah avec la main gauche? C'est pas que le gars il fait pas la Torah. On aurait pu se dire, on aurait été consolé de ça. Si jamais il fait la Torah, c'est un élixir de vie. Si jamais il fait pas la Torah, c'est un élixir de mort. C'est pas comme ça que c'est marqué. S'il fait la Torah avec la main droite, c'est un élixir de vie. S'il fait la Torah avec la main gauche, c'est un élixir de mort. C'est quoi donc faire la Torah de la main gauche? D'après Rashi, si jamais on transpose là-bas le raisonnement, c'est que le type, il fait la Torah sans mettre toutes ses forces, comme avec quelqu'un qui fait les choses avec sa main gauche, qui est sa main qui est accessoire. Ça veut dire qu'il fait la Torah, mais qu'il ne met pas toutes ses corottes. Et bien, Rabotai, le fait de faire la Torah et de ne pas mettre toutes ses corottes, c'est plus dangereux que de ne pas faire la Torah du tout. Et je vous apporte une preuve de Rav Chaim Shmulevitch qu'il apporte à Botaï dans le Passouk sur Melachim. Il vient, Eliou Anavi, il vient prendre à témoin les clans d'Israël de l'époque qui vivaient mi-fig, mi-raisin, mi-carpe, mi-lapin, frère les intermittents du spectacle là-bas. Les gars, ils faisaient ce que je disais tout à l'heure, TPS, canal satellite, la religion à la carte. C'est-à-dire, il prend la religion, ouais, cette mitzvah elle est atypique, c'est l'aile utopique, c'est l'aile folklorique, c'est l'aile plantrabou. Il fait harira là-bas, une salade russe. Il est en train de te faire là-bas une salade de qualité supérieure, là-bas, prendre une salade, et tchouk tout kazalou qui t'asraouya. Il est en train de te prendre là, ça c'est bien, ça c'est moins bien, ça je suis capable, yabou, khabou, c'est quoi cette affaire là? La Torah elle est une seule, il faut la prendre entière. Tu dois être entier avec Hachem. Tu ne dois pas commencer à faire là-bas des tactiques et des calembours et des carambars de malabar. Tu dis, fais la Torah de chat entièrement et ne bouge pas là-bas, n'ayant ta ni à droite ni à gauche. Et dit, ah, il y a un avis, il a vu que les gars, ils appellent à Kadosh Baruch Hu d'un côté, et d'un côté, ils vont avec l'idole. Un côté, il va avec l'idole, un côté, il va avec Kadosh Baruch Hu. Ah ouais, c'est sympa cette poule-là. Il dit, il est venu, il leur a mis un savon à bouteille. Admata, il y a tel poserim à acheter à ses filles. Les amis, jusqu'à quand vous allez danser à deux mariages? Si jamais vous voulez aller avec Akadosh Bobokhu, Imachem Elokav, si Hachem c'est votre Dieu, les Rouacharav, marchez après lui. Et si le Baal, l'idole, c'est votre Dieu, ah, vous avez qu'à aller avec cette idole-là. Qu'est-ce qu'on déduit de ça? Qu'il vaut mieux aller avec l'idole, toute seule, que d'aller avec Akadosh Bokhu et d'aller avec l'idole. C'est bizarre, non? T'es dit, non, ce ne serait pas dit comme ça. Je dis, ben attends, les fachotes. Petite mitzvah là-bas, là derrière. Sympathique, non? Tranquille, Marilo, tu la mets de côté comme ça. Tu t'es plan d'épargne. C'est bien, non? On a fait une mitzvah, Rabbi. On était là-bas ce matin, on passait par là, donc on s'est pris un truc, on l'a mis dans la poche, on a continué notre chemin. C'est vrai que sur le chemin, on est parti, on a fait tarboulotte et tout ça parce qu'on avait des mauvais intentions. Mais à la derrière, on se prend un petit truc dans la tête, il te dit, laisse tomber ça. Tu vas faire tarboulotte, vas-y jusqu'au bout. C'est pas la peine de commencer à prendre là-bas des mitzvot à la derrière et tout ça, c'est encore plus dans. Il te dit, c'est pas moi qui dis. Il te dit, les gars, ils sont dans un matzah dans lequel ils faisaient là-bas l'idolâtrie et l'avodat Hashem. Qu'est-ce qu'il fait, Yohanan? Pourquoi il intervient là? Il leur dit, soit vous faites tout, soit vous faites rien. Soit vous allez avec l'idole, soit vous allez avec Hashem. Mais le pire des matzahs du monde, c'est d'être d'un côté de l'autre. Pourquoi, Rabotel? La réponse à la question. Quelqu'un qui est perché dans la prairie, qui habite à Plan de Cul, par exemple. Non, t'es dit, quelqu'un qui est perché dans les prairies, Rabota, il est loin et tout ça. T'es dit, celui-là, on a beaucoup d'espoir en lui. Un jour ou l'autre, il pourra se réveiller. Un jour ou l'autre, il pourra prendre conscience et se donner et devenir une lumière du monde. Ça veut celui qui est en danger, celui qui vit d'un côté de l'autre, celui qui se contente de son sort spirituel en se disant, ben écoute, c'est pas mal et tout ça, il y a des gars qui sont perchés dans la prairie, donc c'est déjà mieux, moi, si tu connais tous les gars, toujours, tu te compares là-bas aux Zrob de service et tout ça. Comporte-toi à Abraham Kanievski, comporte-toi là-bas au Gdolé Ador, au Talmide Chachayim, au Tzadikim, qu'est-ce que tu te compares aux Jnoun, au royaume des aveugles, les bords de son roi. Tu dis, le problème de ces gens-là, c'est que toute leur vie, ils vont rester dans leur erreur. Ils se sont fabriqués une nouvelle Torah à la carte. Ils ont fabriqué un nouveau système, un nouveau modèle, comme les libéraux, comme les gens qui mettent là-bas les tefilines au côté, les mzrobotes là-bas qui font là-bas des tefilines au côté, et toutes sortes de personnes qui sont venues falsifier le message divin. C'est très dangereux, Rabotai, c'est pire que de ne rien faire. Le gars qui fait rien, il sait qu'il est dans l'erreur. Mais celui qui se fabrique là-bas une Torah à la carte, il est plus dans le dawa parce que toute sa vie, il va rester dans cette matzav. Il n'a aucune chance de se sortir derrière parce qu'il a institutionnalisé un modèle de pensée. Un programme, que ça c'est la nouvelle Torah, ça c'est la chose qui est la plus grave. D'ailleurs, on va dire, Abshalom Shvodron, il a expliqué comme ça. Vous savez que quand Rivka Imeno, elle avait là-bas les jumeaux dans son ventre. Au début, elle était très inquiète, et ça, la manie à l'ochri, et ça, elle dit, si jamais c'est comme ça, les douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire, elle passe devant une maison de Beth Midrash, tu dis, l'enfant il veut sortir. Elle passe devant une maison d'Avodazara, l'enfant il veut sortir. Il a dit, c'est quoi ce genou-là? Il est là-bas, c'est un hybride ou quoi? C'est un juif parvé. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? D'un côté, il veut d'un côté, de côté, c'est un genou. Jusqu'à ce qu'elle est partie voir Shem Bever, il a dit, Khouba, un petit dagui, n'aie pas peur et tout. Tu sais quoi? Il y a deux enfants. Ah, il s'est rassuré. Il y en a un qui va sortir, il va être un tzadi, Gamour, et l'autre va être un rachat Gamour. Ah, ça me rassure. Ça me rassure. J'ai pas compris ce coup-là. Vous avez compris, vous? Ça te rassure d'avoir un, t'es sûr que ça va être un genou? C'est un peu bizarre, non, comme coup? Alors, voilà la lumière de ce que je vous ai dit. Il vaut mieux avoir un genou de gamon qu'un type qui est à moitié-moitié. Dis, parce que celui qui est moitié-moitié, tu peux pas le ramener. Celui qui est genou de gamon, peut-être un jour, il va se réveiller, il va devenir une lumière. Vous avez compris, coup? C'est pour ça qu'elle s'est calmée. J'ai dit, Bedrat Hashem, c'est vrai que c'est un zrob là-bas des cartes. Mais ben. Et peut-être qu'il pourra se réveiller. Mais par contre, s'il y avait jamais un seul et qu'il va d'un côté de l'autre, ça c'est le pire de tout le truc. Après, c'est calmé là-bas, elle a eu là-bas, elle s'est dit c'est bon. Il y en a un, ce sera un tzadik amour, l'autre un rachat amour. Le rachat amour, il peut voir la lumière. Notre maître, notre lumière, Maran Arachar, Zatzal, il disait qu'il vaut mieux habiter avec des chilonim gmurim en Botay, des gens qui font rien du tout, plutôt que d'habiter avec des types, des modernim là-bas, des mzrobim qui te font là-bas des mitzvot à l'envers et à l'ancienne et qui te font toutes sortes de subterfuges et tout ça. C'est beaucoup plus dangereux. Un enfant, il voit que le type il a la crinière de barracuda, il va pas vouloir que demain lui ressembler. Mais si par contre il voit qu'il a une kippa et ça et qu'il a un mzrophone, ben écoutez, on peut danser de mariage, voilà, le voisin est tout à fait sympathique, il s'appelle Chaim Hillel et tout ça. Oui, c'était un tzaddik et tout, son père il a une barbichette, et lui il a une mzrophone. Bravo! T'as dit, il a un tzaddik, et pourtant il a une mzrophone, il regarde aussi le roi Lion et sa grand-mère. Il t'a dit, regarde là, les frères Scott et les Marseillais, les anges et les tarboulottes de la prairie. C'est très bien, ben, voyons voir. Écoutez, on peut être là-bas, il ne faut pas être plus royaliste que le roi. T'as dit, l'autre, lui, tu peux être un burnerer, donc tu peux vouloir lui ressembler. C'est plus dangereux, Rabouda, et celui-là, que celui qui est perché dans la prairie, qu'on ne peut pas s'identifier avec lui parce qu'on a compris qu'il est à côté de la plaque totale. Et lui aussi, il a compris qu'il est à côté de la plaque. La reine, il pourra se réveiller alors que l'autre, il va dormir dans son sommeil léthargique toute sa vie et il n'a pas de chance de faire tchouva avant de quitter ce monde. Ça, c'est la première explication qu'on peut apporter. La deuxième explication, à la lumière de la Kabbalah, un principe de Kabbalah rabotaï que n'importe qui peut comprendre. Il n'y a pas besoin de mettre une gélaba, un talbouche et des babouches pour comprendre ça. C'est marqué.
Ouais, si, je vais faire rigoler, papa. Je suis désolé, ça me fait plaisir que vous rigolez à mes blagues. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas trouvé de gens qui rigolent quand je fais des blagues. Ah, Botaï, il y en a qui se cachent et tout ça pour rigoler, ça me fait plaisir. Ah, Botaï, écoutez bien ça. Il y a un principe dans la Kabbalah qui nous dit, vous l'avez, je suis sûr que vous l'avez déjà entendu ce principe-là. Là où il y a de la Kdoucha, il y a de la Touma. Là où il y a de la Kdoucha, il y a de la Touma. Là où il y a de la lumière, il y a de l'obscurité. C'est ce qu'on te dit ici aussi. Je te dis pourquoi c'est plus redoutable le matzav que la personne, elle a à l'intérieur de lui la lumière et l'obscurité. Je dis parce que l'obscurité, elle est beaucoup plus puissante quand il y a de la lumière à l'intérieur de quelqu'un. Je te dis parce que les forces du mal, elles s'attaquent et elles prennent une tfissa quand il y a des forces du bien. S'il n'y a pas de forces du bien, les forces du mal, elles sont néantes. Elles sont... Et etc. Il ne s'attaque pas à quelqu'un qui est entre ses mains déjà. Imagine quelqu'un il vient faire la guerre et ça, il va commencer le gars, il est à terre et ça. Ça, il est mort, qu'est-ce que tu veux de lui? Laisse-le tranquille. C'est-à-dire à qui tu t'attaques? À quelqu'un qui est du mort, que tu vas le tabasser, le terrasser. Mais quelqu'un qui est déjà mort. Il te dit un type qui est rachat, à Bodak, t'as besoin de t'attaquer à lui, parce qu'il est mort déjà, qu'est-ce que tu veux de lui? Par contre, les forces du mal, à qui elles s'attaquent? À quelqu'un qui a de la lumière à l'intérieur de lui. Quand quelqu'un il a de la lumière, alors il va voilà un challenge pour le faire descendre. Il va vouloir le terrasser. Et c'est ce qui se passe. La Gemara, d'ailleurs, elle nous dit dans ma Maseret Souka, la page 52. Elle nous dit, la Gemara, Kdosha Rabotai, que plus quelqu'un y grandit, plus son Yetzera y grandit. Ça dit pourquoi? Rabbi Yechiel Brand, le gendre de notre maître, notre mère, Rav Chaikin Zatzal, le Rosh Yeshiva d'Aix-les-Bains, il a apporté à Yesod Chosa. Il a dit, imagine-toi dans la guerre. Qui c'est qui doit, contre qui on va se tourner dans la guerre? Est-ce qu'on va taper le peleur d'orange, celui qui est plus la batata ahloa, qui dit, le gars il fait oui, c'est vraiment un type très 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 gorali, il est très très décisif, c'est celui qui coupe les pommes de terre. Oh, ben, vraiment, lui on va se le faire. Ah ouais, le gars il fait, avec tout le respect qu'on lui doit, il fait les meilleurs batata ahloa de tout le quartier, mais on le remplacera par quelqu'un d'autre, si jamais il meurt, c'est pas très grave, et ça on fera la mine de silence pour lui, on fera la balle, on va aller et tout. Mais bon, il t'a dit par contre, si tu fais tomber le chef d'état-major, c'est toute l'armée qui tombe parce qu'ils n'ont plus de tête. C'est la même chose, la bataille des Réchaïm, etc. Il n'y en a rien à faire d'eux parce qu'ils sont déjà par terre, on n'a pas besoin de les faire tomber. Il te dit, qui c'est qui les permet de faire tomber le Yetzerara, les Gdolim, les Tzadikim, ceux qui ont de la lumière à l'intérieur d'eux, etc. Ils essayent de les terrasser parce que s'ils tombent, c'est tout le monde qui tombe avec eux. Tous leurs Talmidim, ils tombent, Talmidim, Talmidim, Talmidim. Tous les gens, ils disent, attends, mais si le Rebbe, il est tombé, alors nous, on va pas tomber. Et c'est comme ça que Chas Vechalila, on voit que les forces du mal, elles s'attaquent à celui qui a de la lumière à l'intérieur de lui. C'est pour ça que c'est plus dangereux, Rabotai. On n'est plus en danger quand on fait de la lumière et de l'obscurité que quand on n'a pas de lumière du tout. On n'a pas de lumière du tout, le Etzara, il n'a même pas une mita sec avec toi, tu es déjà cuit. Tu dis, par contre, si quelqu'un, Rabotai, il a la lumière et l'obscurité à l'intérieur de lui, lui, il est dans un matzav caché. Et avec ça, on peut expliquer comment ça se fait que Amalek, qui était le générateur de toute l'obscurité dans le monde, de qui est-il le descendant? De Eliphaz. Eliphaz et Timna. Il te dit Eliphaz, mais pourquoi est Eliphaz? Ben oui, c'est le fils de Esav. Tu dis Esav, c'était un rachat, donc c'est normal qu'il a engendré des réchaïs. Il dit, il n'y a pas de problème que ce soit un descendant des Esav, on comprend. Mais fais-moi sortir des gens qui ne sont pas Eliphaz. Il a d'autres frères, Eliphaz. Pourquoi ça ne sort pas des autres frères? Il y a d'autres frères qui sont coulochafor. Eliphaz, il a étudié sur les genoux de Yitzhak Avinu. C'est pas un kavod que ce soit lui qui va faire descendre là-bas, mais t'as pas compris. Il te dit, c'est justement parce qu'il avait de la lumière et de l'obscurité que les forces du mal se sont attachées à lui et que des forces du mal sont descendues de lui. Puisqu'il a grandi sur les genoux d'Yitzhak Avinu et qu'il avait cette source de lumière éblouissante. Mais que d'un autre côté, il s'est revendiqué être le fils d'Esav. Ça veut dire que l'obscurité, elle est restée et qu'il n'a pas chassé. C'est pour ça que qui va descendre de lui, Rabotai, Amalek, qui est le générateur de toutes les forces du mal, il peut descendre de quelqu'un qui est à la fois dans la lumière et dans l'obscurité, plus que dans quelqu'un qui n'est que dans l'obscurité. Vous avez capté l'affaire ou pas? Vous avez bien compris? Je t'ai dit, ouais, c'est vraiment du fou. C'est un Esav qui fait revivre les morts. Même les vivants là-bas, et qui s'endorment parfois, tu peux les faire. Ou freine. À partir du moment où on comprend ça, on a une taout qui s'instaure à l'intérieur de nous, une erreur qu'on peut faire d'appréciation. Nous, jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on pensait? Comme on était à l'heure, la lumière repousse l'obscurité. Donc on va allumer la lumière à l'intérieur de nous, on va au shiur de Torah, de Gemara, on va faire les teilim, les tfilot, le chesed, les mitzvot, la tzedaka, et puis mais là, de facto, l'obscurité va sortir. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est marqué dans le pasouk. Ner Hashem, Nishmat Adam. La lumière d'Akadosh Baruch Hu, c'est la Neshama de l'homme. Donc imaginez-vous combien on est porteur d'une lumière infinie et éblouissante qui est la lumière d'Akadosh Baruch Hu, si c'est comme ça. Hein? Comment c'est possible que la personne puisse avoir encore de l'obscurité à l'intérieur de lui, puisqu'il est porteur d'une lumière qui est la lumière de Dieu? Celui qui demande cette question en bouteille, c'est qu'il n'a pas compris le chiot. Celui qui demande cette question, c'est qu'il méconnaît la nature humaine. Il n'a pas compris, Rabotai, que ce n'est pas parce qu'on a une lumière à l'intérieur de nous que l'obscurité va s'en aller pour autant. Il existe deux types d'obscurité, nous dit le Ramban. Il y a l'obscurité de la création du monde, qui est une carence de lumière. Elle est consécutive à une carence de lumière, parce qu'il n'y a pas de lumière, il y a l'obscurité. Mais si jamais tu allumes la lumière, donc l'obscurité va s'évanouir et va s'évaporer. Ça, c'est la. Si jamais l'obscurité elle était comme ça, à l'intérieur de l'homme, ça aurait été magnifique. Un peu de lumière pourrait repousser toute l'obscurité, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Le problème qu'il y a, c'est que notre obscurité qu'on a à l'intérieur de nous, elle ne ressemble pas à celle de la création du monde. Elle ressemble à Makat Rocher. La plaie des ténèbres, quand il y a eu l'obscurité, les trois seconds jours, c'est marqué que ceux qui étaient debout ne pouvaient pas s'asseoir, et ceux qui étaient assis ne pouvaient pas se lever. Moi, je vous dis, j'ai habité dans beaucoup d'endroits et tout, enfin, j'ai circulé dans le monde entier. Et souvent, je me suis levé avant le soleil. Et jamais j'ai vu que quand j'étais là-bas dans l'obscurité, j'ai pas pu me lever le matin. T'as déjà vu? Attends. Allez, Rabou, lève-toi! Ben, excuse-moi, là, il fait obscur, là, je peux pas me lever. J'ai pas compris. Ben, tu peux pas te mettre debout. T'as dit, Rabou, t'as Mitzrayim, l'obscurité, me dit le Ramban, et Rachel, t'es épaisse. Le type est assis, il ne peut pas se lever, il est debout, il ne peut pas s'asseoir. L'obscurité était palpable. Cette obscurité-là, qui est le rocher, les ténèbres, elle éteint toutes les bougies, elle éteint toute la lumière. Toutes les lumières du monde ne peuvent pas suffire pour pouvoir apaiser et amenuire là-bas cette obscurité-là. C'est une obscurité qui est épaisse, c'est un brouillard qui est épais, c'est le brouillard qui est à l'intérieur de la personne, Rabotai, et c'est quelque chose qui peut t'expliquer, dire après, je vous l'ai dit, des contradictions, Nora haute qui existent à l'intérieur des personnes. Tu peux voir des types que c'est des lumières, des gens qui sont magnifiques, qui sont extraordinaires, exceptionnels. Bozmani, qui peuvent te faire des choses qui sont très mauvaises et très graves, parce que Rabotai, l'obscurité, la lumière sert de façon simultanée à l'intérieur de la personne. La seule façon pour nous de pouvoir venir à bout de cette obscurité, que cette lumière elle repousse l'obscurité, c'est qu'on chasse l'obscurité. Parce que, encore une fois, la lumière ne va pas chasser l'obscurité de façon de facto. La lumière elle va chasser l'obscurité qu'à partir du moment où non, on va chasser l'obscurité, alors cette lumière elle aura comment pénétrer à l'intérieur de nous. Cette obscurité c'est les midot va'ot, c'est les mauvaises qualités de cœur, c'est la paresse, c'est l'orgueil, c'est la prétention, c'est la vanité. C'est le fait de sentir qu'on est mieux que l'autre. C'est le fait, Rabotai, de poursuivre les passions et les pulsions de ce monde. C'est le fait d'être jaloux, d'être envieux, de convoiter le bien de l'autre, d'être ouvert sur l'autre monde.
Toutes les choses, chacun en fonction, Rabota, il y en a que c'est le kavod, il y en a que c'est le tava, il y en a que c'est le kina, la jalousie, les passions et les pulsions, il y en a que chacun, Rabota, il les envie. Chacun, il a là-bas cette obscurité qui est à l'intérieur de lui. Si jamais on ne fait pas cette quête-là, si jamais on ne fait pas cette introspection, comme il dit le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, lors du Messie Atécharim, dans l'introduction, on ne fait pas ce bilan et cet examen de conscience. Machovato Beolamo, qu'est-ce qu'on est venu faire dans ce monde-là et qu'on ne se débarrasse pas des scories qui nous habitent, alors cette obscurité-là, elle prend le dessus. Et à l'inverse de ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité, beaucoup d'obscurité neutralise beaucoup de lumière. L'obscurité à côté ne va pas être évaporée par le simple fait d'avoir fait rentrer de la lumière. D'ailleurs, le Gaon Mivilna, il nous dit que la Torah Kedoshah, elle est comparée à de l'eau. Et la Torah Kedoshah, elle est comparée à de la pluie. C'est une Gemara d'ailleurs dans Masechet Ta'anit à la page 7, qui nous dit de la même façon qu'on peut bailler sans eau, on peut bailler sans Torah. De la même façon que la Torah se dépose du point le plus haut vers le point le plus bas. La Torah se dépose vers quelqu'un aussi qui est petit, qui est humble, celui qui ne pense pas que c'est le roi du pétrole et le parrain de la mafia. Lui, Rabotai, la Torah se dépose à l'intérieur de lui. Il dit à Rabotai, le Baba Salé, on n'a pas le droit d'étudier si on est orgueilleux. C'est-à-dire parce que la Torah, elle est comme de l'eau, elle fait germer ce qu'il y a à l'intérieur de la terre. S'il y a des mauvaises herbes, germeront des mauvaises herbes. S'il y a des fruits somptueux et majestueux, germeront des fruits somptueux et majestueux. Ça veut dire que Rabotai, la Torah, elle fait germer à l'intérieur de toi soit la lumière, soit l'obscurité, soit la construction, soit la négation. C'est-à-dire, si déjà, il disait le Baba Salé, si quelqu'un, il est tarbouche là-bas, il est typèche, il comprend rien du tout le type. Et il te dit, il est orgueilleux, imagine si jamais il va savoir. Plus tu vas lui enseigner, plus il aura de quoi écraser les autres. C'est la raison pour laquelle la Torah ne sera pas un élixir de vie, mais sera un élixir de mort. Cette Torah-là, elle va servir. Non seulement elle ne va pas être un élixir de vie pour lui, mais elle sera un élixir de mort, elle va le couler complètement. Parce que l'obscurité qui est à l'intérieur de lui, elle prendra le dessus sur la lumière, et avec ça, il pourra faire le mal, Chas Veshchalila, dans le monde. Si c'est ainsi, on comprend l'urgence et l'importance de toujours essayer de se sonder, de faire ce bilan, cet examen. On va d'abord identifier chacun d'entre nous quel est le défaut qu'on a. Certains la jalousie, certains la colère, certains la paresse, chacun en fonction du défaut, et essayer de lutter pour le battre. Pour l'arranger, pour être metakenoto, pour essayer de l'arranger le maximum, pour montrer à Kadosh Baruch Hu que Bémet, on veut être meilleur, on veut être metaherli benou l'ovdecha Bémet, ribono shalom, purifie-moi le cœur. C'est sûr que je vais étudier, mais simultanément à mon étude, je vais faire Abouda shel Bet Akissé, le travail du lieu de communauté qui est d'évacuer, de la même façon qu'on doit évacuer les besoins naturels, on doit évacuer également les tendances naturelles. Les instincts bestiaux et animaux qui sont à l'intérieur de chacun, on doit se débarrasser de ça et faire ce travail sur le seder de Moussar, de réfléchir, de penser, de travailler sur nous, de casser nos midot, fuir à ta midot, comme il dit Rav Israël Salanter. Et avec ça, si quelqu'un est capable de ça, cette lumière-là, elle peut éclairer, elle peut éblouir et illuminer complètement le monde. J'étais à l'aéroport de Genève avant-hier, quand je suis arrivé en Europe. On a fait Baruch Hashem Incha, Shtabar Beit Ale Shemolad, juste avant la Shkia, on a réussi à faire un minyan sur place, à l'aéroport, en attendant les bagages. Et j'ai prié Melech Olamim, et bien Siyata Dishma, j'ai eu un chidouche qui m'est venu, que cette Sikha magnifique, qu'à mes yeux elle est tout à fait révolutionnaire, parce qu'elle nous éclaire les yeux d'une façon magnifique sur des éléments sur lesquels on s'est trompé, que je voudrais quand même apporter un petit bémol. Juste avant de commencer et de vous dire le dernier chidouche qui m'est venu pour clôturer ce chiour, je voudrais dire une chose quand même. Que de quoi on parle, que quelqu'un, c'est pire si jamais il fait un petit peu que si jamais il ne fait pas du tout. C'est si jamais il a quelqu'un qui a décidé d'institutionnaliser cette chose-là. Ça veut dire qu'il s'est fait un programme et dans son programme, il s'est dit ça je fais et ça je ne fais pas. Mais si j'ai quelqu'un qui décide, moi je vais faire la tzniout et je vais me renforcer, chaque jour je veux être meilleur et je veux avancer et je veux faire toute la Torah Kula, mais je n'ai pas les forces pour l'instant, etc. Il m'a battu, il m'a fait des problèmes, etc. Mais je vais me ressaisir et je vais aller. Et que tu es toute ta vie dans une dimension de volonté d'avancer, ça on ne parle pas de ça. Bien sûr qu'il vaut mieux faire là-bas tout ce qu'on peut que de ne pas faire du tout. C'est bien entendu. Qu'est-ce qu'on te dit qu'il vaut mieux ne pas faire du tout que de faire à moitié si jamais tu t'es arrêté en chemin et t'as dit voilà moi. C'est ça ma Torah, c'est une nouvelle Torah, ne me prenez pas la tête, je suis très bien comme ça, j'ai pas envie de faire plus d'efforts que ça. Ça, en Bouddhaï, c'est quelque chose de dangereux, mais si bien sûr quelqu'un il essaie de mettre toutes ses cochotes et sa vocation, c'est de faire toute la Torah Kula, bien entendu que c'est magnifique, les fous de Saragan, en fonction des efforts, on reçoit la récompense.
On sait très bien d'ailleurs que les Gdolim, c'est marqué qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient dans ce monde-là et qui ne tombe pas. Shiva Pami, Paul Hatzadik, Veakoum, il tombe 7 fois et après il se relève. Donc bien sûr que c'est le derrière. Et que parfois on doit tomber pour se relever encore plus fort et encore plus haut. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir présent à l'esprit. Le dernier yesod qui m'est venu, Besiata Dishmaya. On est en train de parler de la lumière et l'obscurité. Cette lumière et cette obscurité, c'est le monde grec contre le monde des Hashmonaïm. Cette guerre qu'il y a eu au moment de Hanouka entre la lumière et l'obscurité, le corps et la Neshama, entre le clan Israël et les nations, elle est symbolisée par la lumière de la menorah, que cette lumière-là, elle a repoussé l'obscurité de tous nos ennemis. Et bien, Rabotai, ce qu'on vient de parler, on peut le synthétiser avec les conditions et les propriétés que l'huile d'olive devait avoir pour pouvoir être apte à être allumé dans le candélabre, dans cette menorah qui était à l'entrée de Beth Amikdash, et qu'à ce moment-là, elle pouvait délivrer la lumière sur l'humanité tout entière. C'est marqué dans le pasouk, dans Parashat Tetzaveh, « Veikro elecha, shemen zaitzach, katit lama'or, le'alot nertamit. » Ils prendront de l'huile d'olive pure, concassée, pour une lumière éternelle. Rachaim HaKadosh, Shkoto Tagen Ba'adenu Rabbi Chaim Ben Attar Zatzal, il dit quelque chose de magnifique. Il dit ces deux conditions-là, c'est les deux conditions pour que la lumière elle repousse l'obscurité, pour que cette huile d'olive, elle puisse, Rabotai, éclairer l'humanité tout entière. Veikro elecha shemen zaitzach. Zar, ça veut dire purifier, ça veut dire que la chorma de la Torah ne doit pas être mélangée avec aucune autre philosophie, aucune autre sagesse. J'entendais ces derniers jours avant de quitter Eretz Israël qu'aux États-Unis, en Angleterre, on essaye de faire des choses pour faire rentrer des limoudei chol dans les écoles juives et des choses qui ne sont pas en phase en adéquation dans le programme de l'académie, de faire rentrer des choses qui sont contre les valeurs de la Torah. Sur ça, il s'est érigé le Admour de Kalov, Shlita. Et tous les Dolim et les Rabbanim sont en train de s'insurger contre ça. La Torah, Rabotai, elle doit être reçue dans l'intégrité, dans son intégralité. On ne va pas la mélanger avec quoi que ce soit. Ça doit être une Torah de Kulo Kodesh, de Kulo Tahor, qui ne doit pas être mélangée avec d'autres philosophies, d'autres sagesses, et quoi que ce soit. C'est une Torah, comme c'est marqué, cette huile, c'est un mélange qui est hétérogène, qui ne peut pas être mélangé avec d'autres éléments. Le clan Israël ne peut pas être mélangé avec qui que ce soit. Tu prends de l'huile et de l'eau, tu vas faire une solution. Tu ne pourras jamais faire en sorte de faire un mélange qui sera homogène. Toujours ce sera hétérogène, au bout d'un certain moment, l'huile va partir d'un côté et l'eau va partir d'un autre. Il en va de même pour la Torah Kdosha. Si jamais on veut pouvoir avoir cette huile, elle ne doit pas être mélangée avec d'autres composantes. Veikrou elecha shemen zaid zach, purifiée, raffinée. C'est une huile d'olive qui se veut être une huile porteuse de midot tovot. Derech eretz kadma la Torah. Si jamais il n'y a pas de Derech Eretz, s'il n'y a pas de Torah, s'il n'y a pas de savoir vivre et de Midot Tovot, dit le Rav Sadia Gaon, nous n'avons jamais trouvé la Torah qui s'est déposée dans un corps qui n'est pas Metoukan de Midot Tovot. Si quelqu'un n'a pas des bonnes qualités de cœur, la Torah se sort de lui. C'est pour ça que si tu veux avoir la lumière de la Torah, elle doit être sur un fond de lumière qui ne doit pas être mélangée avec de l'obscurité. Ce qu'on a dit depuis le départ. On a dit, tu veux que la lumière elle puisse éblouir, il faut se débarrasser de l'obscurité. Si jamais il y a de l'obscurité, j'aurais expliqué tout à l'heure, si Atta Dishmaya, et pourquoi les gars ils kiffent pas la Torah? Pourquoi tu kiffes pas la voix de ta chaîne? Parce qu'il y a encore de l'obscurité. Cette obscurité-là, elle empêche la lumière de t'illuminer, de t'irradier, de sentir Dvekut Bachem et la lumière d'Akadosh Borou. Celui qui se débarrasse, Rabodai, de ce filtre-là, qui se débarrasse de ce spectre de Rocher, il sent la bonne Dvekut avec Akadosh Borou qui est hors du commun. Ce qui nous empêche, Rabodai, c'est qu'on a encore cette lumière et cette obscurité qui sont méchamchot. Mais on vous vient. Le deuxième élément, katit. Katit, ça veut dire, Rabotai, mesirut nefesh. Mesirut nefesh, ça veut dire le don de soi, l'abnégation, le fait de donner toutes nos corottes et toutes nos forces. Tu veux que cette lumière, elle éblouisse pour l'éternité. Tu veux que cette lumière, elle éclaire, qu'elle éblouisse d'un bout à l'autre du monde pour l'infini. Alors il faut qu'il y ait katit. Plus il y a katit, Rabotai, l'huile, elle venait d'une première pression. La première goutte qu'il faut sortir là-bas, c'est pour la katamenora. Les autres gouttes qui sortaient par la suite, c'est pour Menachot, pour les korbanot. Mais cette huile-là de la menorah qui est symbole de la lumière de la Torah, qui est le symbole de la vie, Rabotai, elle te dit, tu veux réussir dans ta vie, une vie de Torah, une vie de spiritualité, il faut faire katit. plus tu fais des efforts, plus tu fais mes sirouts, mes pêches, plus tu donnes tes kohot et tes forces, et plus la lumière est éblouissante. C'est le deuxième idiot qu'on a dit tout à l'heure. Que si mais tu fais la Torah avec la main droite, c'est un élixir de vie. Mais si tu fais la Torah avec la main gauche, c'est quoi la Torah avec la main gauche? C'est faire la Torah sans y mettre toutes ses forces et sans y mettre toute son abnégation. Tu vois, dans cette deuxième condition, Rabotai, cette condition-là, que si tu veux Sam Chaim, il faut Rabotai veiller mine à la main minime, avec toutes les forces. Vous voulez sortir quelque chose, Rabotai, dans votre vie, vous voulez réussir, mais rattacher l'éducation de vos enfants, votre shalom baït, votre travail, votre avodat Hashem, vos mitzvot, votre filot, tout ce que vous voulez faire, c'est le yesod agadol, Rabotai. L'effort, la mesirut nefesh, le fait d'être capable de se donner à corps perdu de toutes nos kohot et toutes nos forces, comme ces Hashmonaïm qui l'ont emporté avec 13 personnes contre des centaines de milliers de personnes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'amour d'Hashem. Parce qu'ils avaient là-bas cet idéal de vouloir amener cette lumière dans le monde et qu'ils étaient prêts à faire tous les efforts du monde pour y parvenir. Il en va de même pour chacun d'entre nous, mes chères sœurs. Si jamais vous voulez grandir, vous voulez être des lumières pour le clan d'Israël, vous voulez faire venir des enfants qui seront des lumières, avoir des maris qui seront des lumières, il faut impérativement que vous soyez là-bas prête à donner toutes vos cohortes et toutes vos forces. Le mal de la génération dans laquelle on est, c'est la paresse. C'est le fait de faire pas trop vite le matin, doucement l'après-midi, tranquillou, marilou, etc. Les gars en bouteille, ils sont rentrés chez eux, pépères et tout, ils sont pas venus au chiour et tout. Eh ben, Khabou, vous êtes toujours fatigués là, hier, nous avons mis là-bas les babouches et tout ça. Et nous sommes mis sous la couverture de qualité supérieure, rose là-bas et tout ça, et voilà, nous étions devant les fêtes d'amour. Il y a Tchabab que tu es. Je crois que ça va te rapprocher à quelque chose, cette tarboula que tu viens de faire là. Il te dit, mais des efforts, ces efforts infinis pour une lumière éternelle. Plus tu fais des efforts et plus tu as le srou de Rabotaï d'être ce menorah, d'être ce chamage qui peut allumer des petites nérotes qui vont devenir les lumières de la génération. Vous savez que les Suisses, c'est le pays dans le monde dans lequel le niveau de vie est le plus élevé. Ils sont quiétudes, ils sont bien là-bas, ils ont la vache Milka, ils ont les étangs, ils ont des trucs de fou et tout ça. Ils sont comme des pachas, les gars. Pas de pollution, il y a des vues magnifiques, des noces de fou et tout. Il y avait une fois le Rav de Brisk, que le nof de Yerushalayim, avec la galoute, il a été parti là-bas. C'est pour ça qu'ils ont des vues de malade. Que la vue qu'il y avait à Yerushalayim à l'époque, c'est vrai que quand il y a eu le galoute, tout ce qu'il y avait en Eretz Israël, ça s'est malheureusement transféré dans des endroits. Il a dit que la vue qu'il y a là-bas, c'est la vue qu'il y avait autrefois à Yerushalayim. C'est pour ça que les Rav de Brisk, parfois, il y avait beaucoup de Gdolim qui allaient parfois se reposer là-bas. Hercheloye, les types, ils vivent comme des pachas, ils sont bien, ils sont comme des kings et tout ça. Tu dis sûrement que des gens comme ça, ils doivent avoir beaucoup de prix Nobel. Mais vous savez combien ils ont de prix Nobel, les Suisses? Un seul. C'est Henri Dunant, le prix Nobel de la paix, qui était juif. C'est pas parce qu'il est suisse qu'il est prix Nobel, c'est parce qu'il est juif. Plus d'un tiers des prix Nobel, ils sont juifs. Tu dis pourquoi Rabota, il n'a pas sorti des prix Nobel, les gars? Mais ils sont tranquilles, justement. Si jamais il n'y a pas Katid, Rabota, s'il n'y a pas de Messirut Nefesh, tu finis comment comme un petit Suisse? Il y a un petit Suisse, Rabot. Il y a un petit Suisse. Si jamais il n'y a pas Messirut Nefesh, tu finis un petit Suisse. T'as des pays où il y a des guerres civiles là-bas, des types ils se font massacrer à la machette, ils se font faire Slimane. Le Rambam dans le Mishneh Torah, Rabota, il n'a pas écrit quand il était le médecin du roi. Il a écrit quand il était poursuivi par des gars qui voulaient l'exterminer, l'assassiner. Il y a des tchouvotes qu'il a écrit debout, Rabota. Des trucs parfois qu'il devait souffler, des gdolim, ils ont soufflé sur leur encre pour ne pas qu'elle se congèle, pour qu'ils puissent écrire là-bas des responsables. Vous savez ce qu'ils ont fait, la Messirut Nefesh qu'il y a eu? Le Talmud Bavli, ce Talmud de Babylone, c'est quand on était en exil. C'est lui qui a force de loi dans toute la Halakha et pas le Talmud de Jérusalem, on était chez nous. Je dis pourquoi? Parce que quand il y a la Messirut Nefesh, il y a la lumière qui se diffuse dans le monde entier. Si quelqu'un veut réussir à Bota, il faut qu'il y ait ces deux conditions. Premièrement, la pureté, la sainteté, chasser l'obscurité, avoir que de la lumière. Et deuxièmement, à Bota, faire en sorte de mettre toutes nos courantes et toutes nos forces. Si tu mets toutes tes forces dans la Torah et que tu fais la Torah avec tout ton cœur, avec toute ta joie, avec toute ta simra, toute ta gaieté de cœur, tu viens, tu mets là-bas ta jupe, bien comme il faut les manachés, mirvod, akadosh baruch hu. Tu calcules pas là-bas l'isobarycentre, d'après le théorème de Thalès, qui était la grand-mère de Pythagore, et ça tombe là-bas, justement, au millimètre près. Et quand tu es assis là-bas, ça fait faire là-bas un Bermuda du parc Borély. Yarbouba! Quand on aime, on compte pas. Vas-y, envoie un bouteille. Montre à Kadosh Baruch Hu ton amour pour lui. Montre-lui que tu fais pas les choses pour te cacher des ailes, mais parce que tu as cet amour pour Melech Malcham Lachim à Kadosh Baruch Hu. Si un bouteille, on met toutes nos corottes et toutes nos forces, alors on sera des lumières qui pourront Bedrat Hashem chasser toute cette obscurité et nous faire mériter des karomash. Youla Shlema, qu'on la vie du Merlin Lomé. Je vais vous dire, s'il y en a qui veulent, on a amené les disques des bouts, vous pouvez jouer au frisbee avec. J'avais le disque ici qui sont là. Il y a quelqu'un qui m'a demandé tout à l'heure, est-ce qu'on peut enregistrer Rav et ça. J'ai dit, ah ouais, c'est bizarre qu'il y en a qui enregistrent et tout. Putain, quand il y en a le disque, personne ne les prend. J'ai compris maintenant, là, parce qu'ils enregistrent et après ils le font en contrebande à Hong Kong et tout ça. Là, je rigole. Rabouda, s'il y en a qui veulent les disques, mais dans ta chaîne, c'est des shiurim sur toutes les parachutes, sur toutes les fêtes que j'ai fait, dans tous les endroits du monde. Il y a 225 shiurim en audio. Bombardement intensif sur Kaboul et les environs depuis faire la bande à pas fait mieux. C'est du très lourd ici. Voilà. D'ailleurs, si ça me fait plaisir, si jamais vous pouvez, je suis prêt à payer pour le chiot, moi aussi. Parce que vous m'envoyez par mail le chiot, j'aimerais bien l'avoir parce que je n'ai pas celui-là. C'est déclassé. Donc vous avez ici un Rabbanan intégral de 125 cours en audio. Vous avez ici, chaque CD, il est 25 cours, il y a 5 euros. Normalement, il est 10, mais vous êtes la famille, alors je vous les fais 5. C'est dans ta chaîne. Prenez-les avec vous. Si vos parents ne veulent pas, alors c'est tonton qui vous les offre. Sinon, vous donnez de dans ta chaîne à la rabbanie. Et aux rabbiniettes qui sont avec vous ici, vous leur donnez des Bezrat Hashem et après ils me feront passer, n'ayez pas peur. Mais je veux que personne ne reparte sans munitions. S'il y en a qui n'ont pas les livres aussi, je ne sais pas si quelqu'un n'a pas mes livres, mais si toutefois vous ne l'avez pas, quelqu'un n'a pas, levez la main. Et dites je le jure, non je le jure. S'il y en a qui n'ont pas mon livre, ça c'est un livre que j'ai écrit à l'aimant de mon papa, la Vachalom, il est extraordinaire. Il y a chaque paracha des shiurim sur le moussar et l'ashkafa, ça va vous faire revivre. Donc ceux qui les veulent, Bezrat Hashem, vous pouvez venir les prendre, ils sont 26 normalement. 26. Mais chacun, il est payé le prix qu'il prie. Si vos parents ils vous disent 10, 15, comme un centime d'euros. Hein. Donc ceux qui veulent les livres de Bezrat Hashem, vous n'allez pas être déçus. Si jamais vos parents, encore une fois, ils ne veulent pas, c'est moi qui vous les offre. Vous avez vu, c'est Hanouka. Hein. Allez, venez prendre les munitions, comme ça moi je peux partir parce qu'ils vont m'attendre. Je ne sais pas comment ça se fait qu'il n'est pas déjà arrivé d'ailleurs, parce que d'habitude, si jamais il reste de 13 secondes, je vais faire allumer. Mais bon, allez, venez prendre les livres et les CD. Qu'est-ce que vous l'avez mis de votre